J'ai toujours eu le don de repérer les flics. Il y en a qui savent bluffer au poker avec une paire de deux. Moi, je n'ai pas cette chance. Mais je sais repérer les flics. J'ai remarqué les premiers agents en civil pendant mon petit déjeuner. Je venais de me verser un bol de Rice Krispies et j'étais accoudée au bar en fornicat tristounet, sur le point d'en prendre une bouchée. J'ai jeté un œil par la petite fenêtre au-dessus de l'évier et il était là, dans un joli cadre de dentelle Renaissance, individu de sexe masculin, blanc, environ 1m75, 1m80, cheveux bruns, yeux marrons, qui marchait à grandes enjambées sur le trottoir d'en face en direction du sud. Il portait un pantalon de coutil sans plis, une veste sport dans le genre tweed et une chemise bleue à col boutonné, des chaussures de cuir brun ciré avec d'épaisses semelles en caoutchouc noir, dans sa main droite un petit carnet à spirale. Un flic. J'ai pris une bouchée de céréales, mâché, avalé et recommencé. Le deuxième est apparu environ 1 minute et demie après le premier. Plus grand, dans les 1m90, des cheveux blonds coupés en brosse et le genre de mâchoire charnue que les maigrichons comme moi ont instinctivement envie de démolir. Il portait le même pantalon beige, une veste sport différente et une chemise à col blanc. L'agent numéro 2 s'occupait du côté droit de la rue, le mien. 30 secondes plus tard, il a violemment frappé à ma porte. J'ai pris une bouchée de céréales, mâché, avalé et recommencé. Mon réveil sonne à 6h05 tous les matins, du lundi au vendredi. Je me lève, je me douche, je me rase, je passe un vieux jean et un vieux t-shirt. Je suis de gens qui portent des boxers blancs. J'ai aussi une préférence pour les chaussures de sport blanches qui montent jusqu'aux genoux, avec 3 bandes bleu marine en haut. Ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. 6h35. Je mange un bol de Rice Krispies. Puis je rince le bol et la cuillère, que je laisse assécher sur le torchon vert décoloré étalé à côté de l'évier en inox. 6h40, je pars à pied bosser au garage, où j'enfilerai une salopette bleue tachée d'huile avant de prendre ma place sous le capot d'une voiture. Je suis douée de mes mains, ce qui signifie que j'aurai toujours du travail. Mais je serai toujours le type sous le capot, pas celui qui accueille les clients. Jamais je n'aurai ce genre de boulot. Je travaille jusqu'à 6h du soir, avec 1 heure de pause déjeuner. Ça fait de longues journées, mais je ne gagnerai jamais plus d'argent qu'avec ces heures sup. Et là aussi, comme je suis douée de mes mains et pas bavard, ça ne dérange pas les patrons que je traîne dans les parages. Après le boulot, je rentre à la maison. Je me réchauffe quelque chose comme des raviolis pour le dîner. Je regarde Seinfeld à la télé. Je me couche vers 10h. Je ne sors pas. Je ne vais pas dans les bars, je ne me fais jamais de toile avec des copains. Je dors, je mange, je travaille. Chaque journée est plus ou moins semblable à la précédente. Je ne vis pas vraiment, j'existe plutôt. Les psys ont une expression pour ça. Faire comme si tout était normal. Je ne sais vivre que comme ça. Je prends une autre bouchée de céréales, je mâche, j'avale et je recommence. On frappe de nouveau à la porte. Les lumières sont éteintes. Ma propriétaire, Madame H, est partie en Floride voir ses petits-enfants et ça n'aurait pas de sens de gaspiller l'électricité pour moi tout seul. Je repose le bol de céréales ramollies et le flic choisit ce moment-là pour tourner les talons et redescendre les marches du perron. Je passe de l'autre côté de la cuisine, d'où je peux surveiller sa progression, le voir aller chez les voisins et frapper à la porte. Enquête de voisinage. Les flics font une enquête de voisinage dans la rue. Et ils viennent du nord. Donc il s'est passé quelque chose, probablement dans cette rue, un peu plus au nord. Une idée me traverse l'esprit, celle à laquelle je n'avais pas vraiment envie de réfléchir, mais qui me trotte dans la tête depuis que le réveil a sonné, depuis que je suis allée dans la salle de bain et que j'ai contemplé mon reflet au-dessus du lavabo. Le bruit que j'ai entendu, juste après avoir éteint la télé hier soir. Ce que je sais exactement, que je n'ai pas envie de savoir, mais que je ne peux plus me sortir du crâne. Je renonce au petit déjeuner et je me laisse tomber lourdement sur la chaise de cuisine. 6h42. Aujourd'hui, on ne va pas faire comme si tout était normal, en fin de compte. Aujourd'hui, on va être dans le vrai. J'ai du mal à respirer. Mon cœur s'emballe. Je sens mes paumes devenir moites. Et je pense à tant de choses en même temps que ça me donne mal à la tête. J'entends quelqu'un gémir et je reste perplexe jusqu'à comprendre que c'est moi. Son sourire si doux, sa façon de me regarder comme si je mesurais 3 mètres, comme si je pouvais tenir le monde au creux de ma main. Et ensuite les larmes qui dégoulinent sur ses joues. Non, 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 s'il te plaît, Aidan, arrête, non. Les flics vont venir me chercher, tôt ou tard. À 2, à 3, avec toute une équipe d'intervention, ils convergeront vers ma porte. C'est pour ça que les gens comme moi existent. Parce que chaque quartier doit avoir son mouton noir, et on peut faire autant qu'on veut, comme si tout était normal, ça n'y changera rien. Il faut que je réfléchisse, que je prépare un plan, que je me tire d'ici. Pour aller où? Combien de temps? Je n'ai pas assez de fric. J'essaie de maîtriser ma respiration, de me tranquilliser un peu, de me dire que ça va aller. Je suis ma thérapie, pas d'alcool, pas de cigarettes, pas d'internet. Je vais à mes séances, je me tiens à carreau. Quand on mène une vie normale, c'est qu'on est normal, non? Rien de tout ça ne me réconforte. Je me rabats sur mes vieilles habitudes, sur la seule découverte dont je sois certain. Je suis un menteur de première, surtout avec la police. Didi commença son inspection par la cuisine. En tournant la tête à gauche et en regardant par l'embrasure de la porte, elle devinait la silhouette d'un homme assis dans un canapé de place vert foncé, le dossier recouvert d'un plaid arc-en-ciel. Jason Jones se tenait très immobile et, blotti sous son menton, se trouvait une autre tête toute bouclée qui ne bougeait pas non plus, sa fille, Rhee, apparemment endormie. Didi prit soin de ne pas les fixer trop longtemps. À ce stade de la partie, elle ne voulait pas attirer l'attention sur elle. Le pressentiment de Miller était exact. Ils avaient affaire à un suspect intelligent qui semblait savoir naviguer dans la procédure. Ce qui signifiait qu'ils allaient devoir prendre la situation en main et vite s'ils voulaient conduire un interrogatoire un tant soit peu sérieux du mari ou du témoin potentiel de 4 ans. Elle se concentra donc sur la cuisine. Celle-ci, comme le reste de la maison, conservait un semblant de charme suranné, mais montrait d'indéniables signes de vétusté. Un lino à carreaux noirs et blancs qui se décollait, des appareils électroménagers que certains auraient qualifiés de rétro, mais que Didi jugeait antédiluvien. La pièce était très exiguë. Un comptoir arrondi offrait assez de place pour 2 personnes juchées sur des tabourets de bar en vinyle rouge. Il y avait une petite table devant les fenêtres, mais elle supportait un ordinateur au lieu d'offrir une place assise supplémentaire. Didi y vit matière à réflexion. Une famille de 3 personnes qui n'avait de siège que pour 2, pouvait-on en tirer des conclusions sur la dynamique familiale? La cuisine était propre, plan de travail essuyé, désordre limité aux appareils alignés devant la crédence carrelée, mais pas trop. De la vaisselle sale s'empilait dans l'évier, et dans l'égouttoir se trouvait de la vaisselle propre qui attendait encore qu'on la range dans le placard adéquat. Une vieille horloge de restaurant avec une fourchette et une cuillère en guise d'aiguille ajoutait une note de gaieté au-dessus de la cuisinière. Et des rideaux jaunes pâles à motif 2 sur le plat jaune vif ornaient le haut des fenêtres. Vieillot mais chaleureux. Clairement, quelqu'un avait fait un effort. Didi aperçut un torchon à carreaux rouges suspendu à un crochet et se pencha pour le renifler avec curiosité. Miller la regarda d'un drôle d'air, mais elle se contenta de hausser les épaules. Au début de sa carrière, elle avait travaillé sur une affaire de violence conjugale. Le Daily, il s'appelait, dans laquelle Pat, le mari dominateur, obligeait sa femme Joyce à récurer la maison avec un soin militaire chaque jour que Dieu faisait. Didi se souvenait encore de l'odeur prenante de l'ammoniac qu'il avait fait larmoyer tandis qu'elle passait de pièce en pièce, jusqu'au moment bien sûr où elle était arrivée dans la chambre du fond, où les effluves d'ammoniac laissaient place à l'odeur écœurante du sang séché. Apparemment, cette bonne vieille Joyce n'avait pas fait le lit correctement ce matin-là, moyennant quoi Pat lui avait donné un coup de poing dans les reins, Joyce s'était mise à uriner du sang et, estimant sa dernière heure arrivée, était allée chercher le fusil de chasse à l'arrière de la voiture de son mari pour s'assurer qu'il la rejoindrait dans l'au-delà. Joyce avait survécu à ses lésions rénales, mais pas le mari Pat, dont le coup de fusil avait emporté la majeure partie du visage. Jusqu'ici, la cuisine faisait à Didi l'effet d'une cuisine banale. Pas de pulsion maniaque, ni d'ordre, poussant quiconque à nettoyer et stériliser. Juste un endroit où une mère de famille avait servi le dîner et où des assiettes incrustées de macaronis attendaient encore dans l'évier qu'on s'occupe d'elle. Didi reporta son attention vers le sac à main en cuir noir posé sur le bar. Miller lui tendit sans mot dire une paire de gants en latex. Elle le remercia d'un signe de tête et entreprit de passer le contenu du sac au crible. Elle commença par le téléphone portable de Sandra Jones. Le mari ne jouissait d'aucun droit à la protection de sa vie privée concernant le portable de sa femme et il pouvait donc l'examiner tout à loisir. Didi passa en revue les textos et le journal des appels. Un seul numéro lui sauta aux yeux et il était étiqueté « Maison ». Une mère qui prenait des nouvelles de sa fille, certainement. Deuxième numéro le plus fréquemment appelé « Portable Jason ». Une épouse qui prenait des nouvelles de son mari, supposa Didi. Didi ne pouvait pas consulter la messagerie vocale sans le mot de passe, mais ne s'en fit pas pour autant. Miller contacterait l'entreprise de téléphonie mobile et lui demanderait de geler les messages et d'éditer leur journal. Les opérateurs conservent une copie des messages, même effacés dans leur base de données, qui constitue donc une source d'information fort commode pour les esprits curieux. Miller demanderait également à l'opérateur de déterminer par quelles antennes relais les derniers appels de Sandra étaient passés, afin de reconstituer ses derniers déplacements. Dans le sac se trouvaient aussi trois tubes de rouge à lèvres, des nuances rose pastel, deux stylos, une lime à ongles, une barre de céréales, un chouchou noir, une paire de lunettes de vue, ainsi qu'un portefeuille contenant 42$ en liquide, un permis de conduire délivré dans le Massachusetts en cours de validité, deux cartes de crédit et des cartes de fidélité, trois d'enseignes alimentaires et une d'une librairie. Enfin, Didi sortit un petit carnet à spirale rempli de diverses listes. Courses à faire, démarches à accomplir, horaires de rendez-vous. Didi laissa le carnet dehors comme devant être examiné en priorité et Miller approuva d'un signe de tête. À côté du sac était posé un gros trousseau de clés. Didi le souleva d'un air interrogateur. La télécommande appartient au break Volvo gris garé dans l'allée. Deux des clés concernent la maison. Pour quatre autres, nous ne savons pas, mais nous supposons qu'au moins une ouvre sa salle de classe. Je vais mettre un agent là-dessus. « Vous avez regardé l'arrière du break ?» demanda-t-elle brusquement. Miller la regarda d'un air de dire « Faites-moi un peu confiance. » « Ouais, pas de surprise de ce côté-là. » Didi ne s'embarrassa pas d'excuses. Elle se contenta de reposer les clés et prit une pile de devoirs de classe, soigneusement notés à l'encre rouge. Sandra Jones avait donné à ses élèves la consigne d'écrire un paragraphe répondant à la question « Si je devais fonder un village, quelle serait la première règle que tous les habitants devraient respecter et pourquoi ?» Certains n'avaient pas réussi à écrire plus de quelques phrases, d'autres avaient pratiquement noirci la page. Chaque rédaction avait fait l'objet d'au moins un ou deux commentaires, puis d'une note entourée en haut de la page. L'écriture était féminine et certains élèves récoltaient des smileys. Didi jugea que c'était le genre de détail auquel un faussaire ne penserait pas. En attendant, ces éléments la convainquaient que Sandra Jones s'était installée sur ce bar pour corriger ses copies, ce qui, à croire son mari, ne se produisait pas avant le coucher de la petite Ree. Donc vers 9h du soir, Sandra Jones était en pleine forme dans sa cuisine et ensuite... Le regard de Didi se dirigea vers l'ordinateur, un Dell qui semblait relativement neuf posé sur la petite table rouge. Elle soupira. « Allumé ?» demanda-t-elle avec une envie à peine dissimulée. « Je n'ai pas voulu me laisser tenter, » répondit Miller. L'ordinateur, épineuse question. Autant ils en avaient envie, autant il leur fallait l'autorisation du mari, qui avait le droit à la protection de sa vie privée. Un point qu'il faudrait négocier, à supposer qu'il trouve quelque chose à donner en échange. Didi se tourna vers l'étroit escalier qui montait du fond de la cuisine. « Les techniciens sont déjà là-haut » demanda-t-elle. « Oui. Où est-ce qu'ils ont garé leur fourgon ?»« À quelques rues d'ici, près d'un pub. Plutôt envie de faire profil bas. »« Ça me plaît. Ils ont traité les escaliers ?» C'est la première chose que je leur ai demandé, lui assura Miller avant d'ajouter « Écoutez, commandant, nous sommes là depuis 6h du matin. À un moment donné, j'ai eu un bataillon de 10 agents dans la maison pour fouiller le sous-sol, les chambres, les placards et les buissons. Et tout ce qu'on a trouvé, c'est une lampe cassée et un édredon disparu dans la grande chambre. Alors j'ai envoyé les techniciens à l'étage pour faire ce qu'ils avaient à faire et les autres aux quatre coins de la terre pour qu'ils me ramènent Sandra Jones ou un indice sur ce qui a bien pu lui arriver. On connaît nos fondamentaux, seulement ils n'ont rien donné. » Didi soupira à nouveau, attrapa la rampe et gravit l'escalier couleur chocolat. L'étage était aussi douillet que le rez-de-chaussée. Didi dut réprimer l'envie de se baisser lorsque deux vieux plafonniers lui effleurèrent le sommet des cheveux. Le couloir était en parquet, du même marron chocolat que les escaliers. Avec le temps, de la poussière s'était coincée dans les interstices du plancher et ses pas soulevaient quelques pelotes de poils fins et de squam. Un animal de compagnie, devina Didi, même si personne n'avait encore évoqué son existence. Elle s'arrêta et se retourna pour regarder derrière elle la piste laissée par les empreintes de pas qui se mêlaient et se confondaient en une masse indistincte sur le plancher poussiéreux. Bonne chose qu'on se soit déjà occupé du sol, se dit-elle. Puis elle tiqua, car elle venait d'avoir une idée qui l'inquiéta vivement. Elle faillit ouvrir la bouche pour faire une remarque, mais se ravisa in extremis. Mieux valait attendre. Prendre la situation en main, vite. Ils passèrent devant une salle de bain exiguë, décorée avec le même motif des années 50 que la cuisine. En face s'ouvrait une chambrette avec un lit simple recouvert d'une couette rose et vert, nichée sous le toit fortement mansardé. Le plafond avait été peint en bleu vif et parsemé de nuages, oiseaux et autres papillons. Clairement une chambre de petite fille. Coquette, juste ce qu'il fallait pour que Didi ait un pincement au cœur en pensant à la petite Clarissa Jane Jones, qui s'était endormie pelotonnée dans un si charmant écrin et qui avait été réveillée par un défilé cauchemardesque d'agents en costume sombre qui vadrouillaient dans sa maison. Didi ne s'attarda pas dans cette pièce et parcourut le couloir jusqu'à la grande chambre. Deux techniciens de scène de crime se trouvaient devant les fenêtres. Ils venaient de baisser les stores et inspectaient la pièce à la lumière bleue. Didi et Miller restèrent respectueusement dans le couloir pendant que la première silhouette en tenue blanche cherchait sur les murs, le plafond et le plancher, des traces de fluide corporel. Lorsque des taches apparaissaient, le second y plaçait un plot en vue de futurs examens. L'opération prit une dizaine de minutes. Ils n'examinèrent pas le lit. Les draps et les couvertures avaient certainement déjà été embarqués pour être analysés au labo. La première silhouette remonta les stores d'un coup sec, alluma la lampe de chevet rescapée et salua Didi d'un joyeux « Salut mon commandant ». « Quelle nouvelle du front, Marge ? On gagne, comme d'hab. » Didi s'avança pour serrer la main de Marge, puis celle du second technicien de scène du crime, Nick Crawford. Ils se connaissaient tous de longue date pour passer trop de temps sur ce genre de scène. « Qu'est-ce que vous en dites ?» leur demanda Didi. « Il y a quelques touches, » répondit Marge d'un air désabusé. « On va les analyser, bien sûr, mais il n'y a rien de criant. Faut dire qu'on trouve des fluides corporels dans toutes les chambres du pays. » Didi acquiesça. Quand on fait une recherche de fluides corporels dans une chambre, deux choses doivent attirer l'attention. 1. Une trace qui saute aux yeux comme une éclaboussure qui luit sur un mur ou une énorme flaque qui s'illumine au sol. Et 2. L'absence totale de fluides corporels, qui indiquerait qu'on a eu recours à des détergents pour nettoyer la pièce de fond en comble. Comme disait Marge, on trouve quelque chose dans toutes les chambres. « Et la lampe cassée ?» demanda Didi. « Nous l'avons ramassée par terre, » intervint Nick, avec tous les débris à proximité immédiate. À première vue, la lampe s'est renversée et s'est brisée au sol plutôt qu'elle n'a servi d'arme. En tout cas, l'examen visuel n'a pas permis de découvrir de traces de sang sur son pied. Didi hocha la tête. « Et la literie ?» Le dessus de lit vert et bleu a disparu, mais le reste de la literie semble intact. « Vous avez fait la salle de bain ?» demanda Didi. « Oui. Les brosses à dents ? Deux étaient encore humides à notre arrivée. Une brosse à dents électrique Barbie rose pour la petite fille, et une brosse à dents électrique Oral-B Brown dont le mari dit qu'elle appartenait à sa femme. Le pyjama ? D'après le mari, la femme portait un long t-shirt violet décoré d'un poussin avec une couronne sur le devant. Jusqu'ici introuvable. D'autres vêtements ? La valise ? Le premier inventaire du mari n'a rien révélé de manquant. Les bijoux ? Les plus précieux sont sa montre et son alliance, qui ont toutes les deux disparu. De même que ses créoles en or préférées, dont le mari dit qu'elle les portait souvent. Nous n'avons trouvé dans la boîte à bijoux que des colliers et quelques bracelets artisanaux, apparemment offerts par la fillette. C'était à peu près tout, d'après le mari. Didi se tourna vers Miller. Aucune opération sur sa carte de crédit, j'imagine. Miller reprit son air, arrêté de me prendre pour un con. Elle se contenta de cette réponse. Donc, résonna-t-elle à voix haute. « D'après tout ce qu'on sait, Sandra Jones est rentrée du travail hier après-midi. Elle a préparé le dîner pour sa fille, l'a mise au lit, puis a corrigé des copies comme tous les soirs. À un moment ou à un autre, elle s'est brossée les dents, elle s'est mise en chemise de nuit et est arrivée au moins jusque dans la chambre, et là, la lampe a été cassée au cours d'une lutte, suggéra Marge. Peut-être que quelqu'un se trouvait déjà là, embusqué, ça expliquerait l'absence de traces de sang. » L'individu l'aurait maîtrisé à main nue, complète à Miller, par asphyxie. Analysez les oreillers, dit Didi. Il a pu l'étouffer dans son sommeil. Étouffé, étranglé, quelque chose qui ne fasse pas trop de bruit ni trop de saleté, convainc Nick. Ensuite, il aurait roulé le corps dans la couette et l'aurait traîné dehors, conclut Miller. Mais Didi n'était pas d'accord. Non, non, pas traîner, c'est là que ça se complique. Comment ça, pas traîner? S'étonna Miller. Regardez ce couloir poussiéreux, nos empreintes de pas sont visibles, ce qui est un problème, parce que si quelqu'un avait traîné un cadavre enveloppé dans un grand édredon, ce qu'on devrait voir, c'est une longue piste sans poussière depuis cette chambre jusqu'au sommet des escaliers. Pas de bande propre, ce qui signifie que le corps n'a pas été traîné. Miller réfléchit. D'accord, donc il l'a porté. Un homme seul a porté le corps d'une femme emmailloté façon burrito dans ce couloir étroit ? Répondit Didi d'un air sceptique. Primo, il faudrait qu'il soit costaud. Deuxio, jamais il n'aurait réussi à passer le virage de l'escalier. On verrait des traces partout. Deux hommes, hasarda Marge. Deux fois plus de bruit, deux fois plus de chances de se faire prendre. Alors qu'est devenu ce foutu édredon ? Demanda Miller. Je ne sais pas, répondit Didi. À moins qu'elle n'ait pas été tuée dans cette chambre. Peut-être qu'elle a réussi à descendre au rez-de-chaussée. Peut-être qu'elle regardait la télé dans le canapé et qu'on a sonné à la porte, ou que le mari est rentré. Elle étudia la question, testa divers scénarios dans sa tête. Il l'a tué ailleurs et ensuite il est monté ici chercher le dredon. C'est là qu'il a renversé la lampe en le retirant du lit. Ça fait moins de bruit comme ça, moins de chances de réveiller la gamine. Ce qui signifie que nous n'avons toujours pas trouvé la principale scène de crime, marmonna Miller, l'air contrarié. Parce que, d'après lui, ils avaient respecté les fondamentaux et que ceux-ci auraient dû révéler des traces de sang. Ils se dévisageaient les uns les autres. « Je vote pour le sous-sol, » dit Didi. « On dirait que c'est toujours au sous-sol que les drames se produisent. C'est parti ?» Ils descendirent tous les quatre au rez-de-chaussée et passèrent devant le séjour où un agent, debout sur le pas de la porte, surveillait toujours Jason Jones et son enfant endormi. Jones leva les yeux lorsqu'ils traversèrent l'entrée. Didi aperçut brièvement des yeux marrons mi-clos, puis Miller ouvrit la porte sur un périlleux escalier en bois qui menait à une cave moisie mal éclairée par quatre ampoules nues. Ils descendirent lentement et avec précaution. Sérieusement, les policiers se faisaient mal au dos en tombant dans les escaliers plus souvent qu'à leur tour, ce qui était embarrassant pour tous les intéressés. Quitte à être blessés en mission, autant avoir au moins une bonne histoire à raconter. Au pied de l'escalier, Didi découvrait une cave qui ressemblait fichtrement à une cave. Des fondations en pierre, un sol en ciment fissuré. Devant eux, une machine à laver et un sèche-linge couleur ivoire, une vieille table basse sur laquelle était posé un panier à linge en plastique et un flacon de lessive. Venait ensuite l'éternel assortiment de chaises de jardin endommagées, de vieux cartons de déménagement et de matériel de puériculture devenu trop petit. Juste à côté de l'escalier, des étagères en plastique semblaient accueillir tout le surplus du garde-manger de la cuisine. Didi remarqua des boîtes de céréales, des macaronis au fromage, des biscuits apéritifs, des pâtes, des boîtes de soupe, tout le fourbier habituel. La cave était poussiéreuse mais pas désordonnée. Les objets étaient soigneusement rangés contre le mur, le centre de la pièce dégagé pour s'occuper du linge, voire faire du vélo à l'intérieur, à en juger par le tricycle violet garé près de l'escalier, donnant sur le jardin par une trappe. Didi s'approcha de celle-ci en prenant note de l'accoutumation de toiles d'araignée dans le coin droit, de l'épaisse couche de poussière sur la poignée sombre. Ces portes n'avaient manifestement pas été ouvertes depuis un moment, et à présent qu'elle était en bas, Didi commençait déjà à changer d'avis. « Si vous commettiez un meurtre à la cave, est-ce que vous traîneriez vraiment le corps à l'étage ? Pourquoi ne pas le planquer sous la pile de carton ou attraper un vieux drap pour le faire passer par la trappe au milieu de la nuit ?» Elle farfouilla dans la collection d'éléments de berceau, de poussettes et de transats mis au rebut. Passa à la pile de carton le long du mur, au mobilier de jardin décrépit. Derrière elle, Nick et Marge examinaient le sol avec des spots, pendant que Miller restait à l'écart, mains dans les poches. Ayant déjà exploré le sous-sol, il se contentait d'attendre que le groupe arrive à la même conclusion que lui des heures plus tôt. Au bout de quelques minutes à peine, Didi y arrivait déjà. La cave lui rappelait la cuisine, ni trop sale ni trop propre. Juste ce qui collait avec une famille de trois personnes. Pour rigoler, elle regarda tout de même dans la machine à laver et le sèche-linge et eut le souffle coupé. Merde ! Elle avait un édredon vert et bleu sous les yeux. Miller se précipita, les techniciens sur les talons. Est-ce que... C'est une blague. Attendez un peu que je mette la main sur les deux abrutis qui ont fouillé cette pièce. Hé, ce ne serait pas l'édredon ? Demanda un peu bêtement Nick. Marge, déjà penchée sur la machine à chargement par le haut, tirait sur l'édredon pour le sortir tout en prenant soin de ne pas le traîner par terre. Il a lavé ? Réfléchissait Didi à voix haute. Le mari a lavé l'édredon, mais il n'a pas eu le temps de le faire sécher avant d'appeler la police. Ou bien la femme l'avait mis à laver depuis le début et ça fait des heures qu'on s'agite pour rien. Marge déplia soigneusement l'édredon et en tendit une extrémité à Nick tout en tenant l'autre. Il portait les plis marqués d'un linge mouillé laissé un moment dans la machine. Il sentait vaguement la lessive, le frais, le propre. Ils le secouèrent une fois et une boule mouillée violette tomba par terre avec un claquement humide. Didi portait encore des gants en latex et elle prit donc les devants. « La chemise de nuit de Sandra Jones, j'imagine », dit-elle en déroulant le t-shirt violet détrempé qui avait bel et bien un poussin avec une couronne sur le devant. Ils examinèrent les deux objets un instant, à la recherche de taches roses délavées comme celles que laisserait du sang ou bien encore de déchirures irrégulières qui pourraient être un signe de lutte. Une trace de quelque chose. Didi eut à nouveau cette sensation de malaise, comme si elle avait sous les yeux quelque chose d'évident mais qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Qui prend le temps de laver un édredon et une chemise de nuit mais laisse une lampe cassée à la vue de tout le monde? Quel genre de femme disparaît en laissant derrière elle son enfant, son portefeuille, sa voiture? Et quel genre de mari rentre à la maison et découvrant que sa femme a disparu, attend 3 heures avant d'appeler la police? Grenier vide sanitaire? Demanda Didi à Miller. Nick et Marge pliaient l'édredon pour l'emporter au labo. Si l'individu n'avait pas utilisé d'eau de Javel, il pourrait encore fournir des indices. Ils prirent le t-shirt violet à Didi, le mirent dans un autre sac en vue d'analyse. Pas de vide sanitaire. Le petit grenier est essentiellement rempli de décorations de Noël, répondit Miller. Placard, réfrigérateur, congélateur, dépendance, barbecue, rien, 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 rien et rien. Évidemment, il y a cet immense port bleu, certes. Didi poussa un profond soupir, avança une dernière hypothèse. La voiture du mari. Un pick-up. Il est sorti avec nous pour regarder à l'arrière, mais il a refusé d'ouvrir l'habitacle. Il est prudent, le salopard. Il a du sang-froid, corrigea Miller. Sa femme a disparu depuis des heures maintenant, et il n'a même pas pris son téléphone pour appeler de la famille ou des amis. Cela décida Didi. Bien, dit-elle. Allons rencontrer Monsieur Jones.